Nos bœufs trottent bon train pour le retour, comme devinant qu'il faut sortir avant la nuit de cette forêt mouillée d'eau chaude, qui déjà se fait obscure presque soudainement sans crépuscule. Et le souvenir des trop grandes vieilles dames qui sourit là-bas derrière nous, discrète au-dessus des amas de ruines, continue de me poursuivre pendant cette fuite sautillante et chaotée à travers la brousse. Quand je retrouve enfin l'air libre devant les larges fossés de nénuphars à l'entrée du pont cyclopéen, le ciel déblayé a repris une limpidité de cristal et c'est l'instant où commencent à palpiter les étoiles. Au bout de la clairière réapparue, les tours du temple d'Angkor Wat se dressent très haut. Elles ne sont plus comme à midi, pâlies par un excès de soleil, presque nébuleuses. D'une netteté violente à présent, elles découpent à l'emporte-pièce, sur fond d'or vert, leur silhouette de tiare à plusieurs rangs de fleurons, et une grande étoile, l'une des premières allumées, scintille au-dessus magnifiquement. Alors vient chanter en moi la phrase enfantine de jadis. Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Après l'étouffement des voûtes d'arbres, après la forêt pleine d'embûches, on a déjà une impression de sécurité et de chez-soi à rentrer dans l'immense enclos du temple où les broussailles n'ont guère plus que la taille humaine et où l'avenue d'Allée s'en va droite et sûre vers un semblant de village. Le chant des bonzes est aussi là pour me faire accueil, et quand je remonte par la petite échelle dans ma maisonnette sur pilotis et sans murailles, tout cela me semble hospitalier. C'est à nuit close, précédée d'un ciboulot porteur de torches, que je franchis enfin le seuil de ce temple colossal d'Angkor Wat. J'avais cependant pris mon parti de n'y commencer mon pèlerinage que demain au lever du jour, mais il est là, si voisin, surplombant presque de sa masse terrible mon logis frêle. Quelques marches de granit à monter, et m'y voici, dans une première galerie infiniment longue qui a l'intimidante sonorité des cavernes, et qui en avait d'abord le silence, mais qui tout de suite s'emplit de bruissements. C'est la galerie extérieure, celle qui forme un carré de 250 mètres de côté, et qui entoure comme un somptueux chemin de ronde tout l'enchevêtrement étage des constructions centrales. Les dalles y sont feutrées d'on ne sait quoi de mou, qui s'écrasent sous les pas en répandant une odeur de musc et de fiente. Et au bruissement de l'arrivée s'ajoutent à présent des petits cris aigus qui se propagent devant nous dans ces lointains si obscurs. La torche, en passant, me révèle sur les parois d'un gris sombre une mêlée inextricable de guerriers qui gesticulent avec fureur. Tout le long du chemin, un bas-relief ininterrompu déroule à perte de vue des batailles, des combattants par milliers, des éléphants caparaçonnés, des monstres, des chars de guerre. Je ne prétends pas m'aventurer cette nuit dans le dangereux dédale du milieu, dans le temple proprement dit, mais au moins voudrais-je en faire le tour par ces galeries si droites qui semblent si faciles et continuer de suivre jusqu'au bout le déroulement du bas-relief. Cependant, il me trouble ces petits cris aigus qui se multiplient en concert, comme poussés par des milliers de rats au-dessus de ma tête. Et puis là-haut, en guise de pierre de voûte, ne dirait-on pas un tremblotement d'étoffe noire ? Oh, les adorables créatures inscrites çà et là aux parois, sans doute pour reposer les yeux de la longue bataille. Un lotus à la main, elles se tiennent deux par deux ou trois par trois, calmes et souriantes sous leurs tiares archaïques. Et ce sont les apsaras, divines des théogonies hindoues. Avec amour, les artistes d'autrefois ont ciselé et poli leurs gorges de vierge. Qui dira ce qu'est devenu la cendre des belles sur qui furent copiés ces torses parfaits? Horreur ! Voici que les voûtes s'abaissent vers nous, ou du moins les tremblotantes étoffes noires qui paraissent suspendues. Elles descendent à toucher nos cheveux. On sent le vent qu'elles font comme à grands coups d'éventail. Des corps poilus agitant très vite de longues membranes chauves. Et c'était cela qui criait là-haut comme des rats. Nous sommes frôlés de toutes parts. D'énormes chauves-souris en nuages, en avalanches, affolées, agressives. Elles vont éteindre notre pauvre lumière falote, sauf qui peut. Courons vers les portes. Ce temple, évidemment, ne veut pas qu'on le profane aux heures solennelles de la nuit. Au dehors, paix soudaine, sérénité du ciel et splendeur des étoiles. Nous arrêtons notre course de fuite pour respirer délicieusement. Il y a des jasmins qui embaument l'air, et la tranquille psalmodie des bronzes, après ces milliers de cris à nos oreilles, semble une musique exquise. Toutes ces figures tourmentées qui peuplaient les murailles et tous ces attouchements d'ailes affreuses, ah, de quel cauchemar nous venons de sortir! Du reste, c'est l'heure enchantée dans ces régions, l'heure où le brasier du soleil s'est éteint et où la rosée mauvaise n'a pas commencé de mouiller toute chose. Dans l'immense clairière au milieu de laquelle trône le temple et que défendent des fossés et des murs, on a une impression de sécurité parfaite, malgré l'ambiance et les grandes forêts. Les tigres ne franchissent point les ponts de pierre, bien que les portiques n'en soient plus jamais fermés. À part quelques singes curieux, toutes les bêtes des bois respectent le bocage enclos où des hommes habitent et chantent. Et la grande avenue est là, qui s'en va devant moi, droite et sûre, blanchâtre dans la nuit, entre les touffes sombres des arbustes aux senteurs de jasmin et de tubéreuses. Sans but, je me mets à cheminer doucement sur ces dalles, m'éloignant du temple, entendant de moins en moins le chant des bonzes qui par degrés se perd derrière ma route dans l'infini silence. J'ai marché, marché, et voici les fossés au lotus avec le pont de sortie que gardent les serpents à sept têtes. La forêt, sur l'autre rive, dresse très haut son rideau noir. Elle m'attire avec son sommeil et son mystère. Sans y entrer, si j'allais seulement jusqu'à l'oreille de ces futaies, pleines de nuit où tant d'oreilles aux aguets doivent déjà m'entendre. Et je passe avec précaution le portique, m'assurant de chaque dalle où mon pied s'appuie comme à tâtons. En pareille obscurité, ce pont est imposant à franchir. Mais il me semble que j'entends courir derrière moi à pas légers, des hommes ou des singes. Avant que j'aie eu le temps de me retourner, je me sens pris par la main, oh, très gentiment, et deux silhouettes humaines surgissent qui veulent me retenir. Tout de suite, je les reconnais. Deux de mes braves siamois conducteurs de bœufs, mais que me veulent-ils? Pour nous expliquer, nous ne savons aucun mot commun dans aucune langue. Mais ils me font signe que c'est téméraire d'aller plus loin. Il y a des embûches, il y a des bêtes avec des dents qui mordent. Alors, soit, je me laisse ramener par eux. Ils me conduisent en un coin d'élection où d'autres naïfs bouviers, également de mon cortège, sont étendus à fumer des cigarettes en prenant le frais. C'est sur le mur d'enceinte, bas et large, qui forme terrasse au-dessus des fossés de défense. Il paraît que je dois m'étendre aussi. Sur le sol, ce serait impossible à cause de tous les venins sournois qui rampent dans l'herbe. Mais sur ces vieilles dalles bien nettes, on ne risque rien. L'un d'eux enlève le vêtement mince qui couvrait son torse de cuivre, le roule en peloton et en fait un oreiller pour ma tête. Après quoi, il faut allumer une de leurs cigarettes qui a je ne sais quelle agréable et anesthésiante odeur d'herbe brûlée. Nous ne pouvons pas causer, bien entendu. Mais, sans doute parce que le silence ici a quelque chose de trop terrible, un des jeunes bouviers entonne en fausset très doux une petite chanson à dormir qui semble la plainte de quelque esprit des ruines. Rien qu'à l'écouter, je me sens très loin, dans un pays d'inconnus et d'incompréhensibles. Et de même, les constellations qui, au-dessus de ma tête renversée, scintillent sur le bleu noir de l'infini, me font à leur manière un permanent signal d'exil. La grande ours, qui trônait à demeure dans nos nuits de France, semble avoir glissé dans le ciel. Elle est presque tombée sous l'horizon, et du côté inverse, je vois briller très indicatrice la croix du Sud. C'était au premier abord une sensation délicieuse de reposer ainsi, demi-nu, se confiant à la tiédeur égale et caressante d'une atmosphère qui ne peut à aucun moment se refroidir et où l'on sait que jamais ne se lèvera un souffle trop vif. Mais les instants de bien-être sont comptés en ces climats. Autour de nous, un petit susurrement, discret pour commencer, s'enfle de minute en minute et se généralise. Les moustiques s'assemblent, ayant flairé de loin l'odeur inusitée de la chair. Et puis déjà, la toile dont je suis vêtu s'amollit, s'imbibe d'humidité. L'éternelle bouillure de ces régions qui avaient fait rêve une heure ou deux reparaît à présent sous forme de rosée. Nous sommes saupoudrés de gouttelettes d'eau. Il faut revenir chercher un abri au pied du grand temple, dans le hameau des bons chanteurs au hangar de pèlerins. C'est sous ce hangar et protégé par son petit hôtel à Bouddha que je vais enfin m'endormir. Les pilotis s'éloignent du ciel où courent les bêtes venimeuses, et une mousseline tendue est ma protection contre les bêtes qui volent. Autour de moi s'installent les bouviers jaunes de ma suite. Comme ils n'ont pas de moustiquaire, ils décident de se relayer pour entretenir jusqu'au matin, sous le plancher à claire-voie de notre logis, un grand feu d'herbe qui nous enveloppera tous d'un nuage protecteur. Et, bercé par les chants bouddhiques, je m'abîme bientôt dans le sommeil, au milieu d'une odorante fumée. Chapitre 8. Vendredi 29 novembre 1901. Éveillé à l'aube par le crescendo matinal des psalmodies, il y a eu tant d'humidité, tant de rosée que, malgré le toit de chaume, tout est mouillé autour de moi et sur moi comme après une averse. À la quasi-fraîcheur de l'extrême matin, je monte à nouveau les premiers degrés du temple entre les rampes frustes rongées par les pluies des siècles. Et me souvenant des chauves-souris gardiennes, j'entre avec un excès de précaution sans faire plus de bruit qu'un chat. Elles dorment toutes là-haut, mes ennemies d'hier au soir, la tête en bas, pendue par les griffes au plafond de pierre, et simulant à cette heure des myriades de petits sacs en velours sombre. Me voici dans la place sans qu'elles aient bougé. Je reconnais la galerie aux sonorités de caveaux que décore à perte de vue l'interminable bas-relief des batailles. Cependant, comme elles se révèlent cette fois d'ensemble, fuyant en perspective toute droite, elle me paraît encore plus infiniment longue. Un demi-jour verdâtre remplace tout à coup ici la belle lumière qui naissait dehors. Ainsi que dans les souterrains, on y sent une odeur de moisissure, mais que domine la puanteur musquée des fientes de chauve-souris déposées en couche sur le sol, comme si de la voûte il pleuvait constamment des graines brunes. Pour éclairer le déploiement du bas-relief qui couvre toute la paroi intérieure de la galerie, des fenêtres de distance en distance ouvrent sur le bocage d'alentour, donnant une lumière atténuée que verdissent les feuillages et les palmes. Très somptueuses fenêtres d'ailleurs, elles s'encadrent de si délicates ciselures que l'on croirait des dentelles plaquées sur la pierre, et elles ont des barreaux annelés qui semblent des colonnettes de bois, précieusement travaillées autour, mais qui sont en grès comme le reste des murailles. Ce bas-relief, qui prolonge sa mêlée de personnages sur une longueur d'un kilomètre aux quatre faces du temple, s'inspire de l'une des plus antiques épopées conçues par les hommes d'Asie, ces Aryens, nos ancêtres. Jadis, à l'âge appelé Kuta, vivaient les fils de Kiasiapa, qui étaient d'une force et d'une beauté surhumaine. Deux sœurs leur avaient donné le jour, Diti et Aditi. Mais les fils d'Aditi étaient dieux, tandis que les fils de Diti étaient démons. Un jour, qu'ils s'étaient réunis en conseil pour chercher un moyen de se soustraire à la vieillesse et à la mort, ils décidèrent de cueillir toutes ces plantes des bois que l'on nomme des simples, de les jeter dans la mer de lait, et ensuite de battre la mer. Il en résulterait un magique breuvage qui vaincrait la mort et les rendrait à jamais vigoureux et beaux. Ils firent donc une barate avec une montagne, une corde avec le grand serpent sacré Vasuki, et se mirent à barater sans trêve. Bientôt, des eaux remuées sortirent les Apsaras, danseuses et courtisanes célestes qui étaient d'une incomparable beauté. Elles devinrent les femmes des demi-dieux Gandharvas et donnèrent naissance à la race des singes. Ensuite sortit en personne la belle Varuni, fille de l'océan, que les fils d'Aditi prirent pour épouse. Enfin, à la surface de la mer, on vit se former le breuvage merveilleux qui devait triompher de la mort. Mais pour le posséder, une guerre d'extermination commença entre les fils de Diti et les fils d'Aditi, et les fils d'Aditi furent les vainqueurs. Tel est le thème résumé du Ramayana, cette légende ancestrale venue jusqu'à nous grâce au vieux Valmiki, saint ermite de la montagne, qui a pris soin, dans la nuit des temps, de la transcrire et de la fixer en un poème de 25 000 distiques. Le barattement de la mer de lait occupe à lui seul un panneau de plus de 50 mètres de long. Viennent ensuite les batailles des démons et des dieux, ou celles des singes contre les mauvais esprits de l'île de Ceylan, qui avaient enlevé à Rama la belle Sita, son épouse. Tous ces tableaux, qui jadis étaient peints et dorés, ont pris, sous les suintements de l'humidité éternelle, une triste couleur noirâtre, avec par place des luisances de choses mouillées. En outre, jusqu'à portée humaine, le bas-relief, qui a 5 mètres de haut, est usé par le frottement séculaire des doigts, car aux époques de pèlerinage, toute la multitude se fait un devoir de le toucher. Ça et là, dans les parties qu'éclairent les belles fenêtres aux colonnes torses, on voit encore des traces de coloriage sur les vêtements ou les figures. Et parfois, au tiers des Apsaras, un peu d'or épargné par le temps continue de briller. En m'avançant, je ne cesse d'épier là-haut les gardiennes veloutées. Les dalles sonnent creux, et quand mon pas fait trop de bruit, quelques paires de membranes chaudes se déplient. Une chauve-souris s'étire, en éveille une autre et un remuement commence. Alors je m'immobilise comme pétrifié jusqu'à ce que tout se rendorme. Ce qui est incompréhensible, c'est que la muraille à personnage semble d'un seul morceau des centaines de mètres de longueur. Il faut regarder de tout près pour découvrir les jointures des pierres énormes qui ont été mises à la file sans le secours d'aucun ciment et ajustées avec une précision rigoureuse comme dans les monuments de l'Antiquité égyptienne. Au milieu de chaque face du quadrilatère, un portique s'ouvre dans ce chemin de ronde et donne accès à la cour centrale où s'élève la pagode proprement dite, le prodigieux amas de graisse sculptée escaladant le ciel bleu. Là, j'hésite à pénétrer, intimidé peut-être ou fatigué d'avance, par un tel enchevêtrement d'escaliers, de terrasses et de tours, par une telle complication de lits, une telle lourdeur dans le silencieux ensemble. Plutôt que d'entrer, je m'attarde encore à suivre le bas-relief du pourtour. Dans la galerie du quatrième côté, rencontre de deux enfants bonzes, robes jaune citron et draperie jaune orange. Mais que viennent-ils faire là avec une brouette, une pelle et un balai? Ah, tout bonnement ramasser de la fiente de chauve-souris pour fumer quelques petits jardins monacales. Et combien de milliards d'insectes mangés en l'air représentent ces tas de graines brunes dans leurs brouettes qui vont servir à féconder des fleurs, lesquelles nourriront d'autres insectes, lesquels seront mangés par d'autres chauves-souris. Mais ils commencent à faire trop de bruit, ces jeunes bonzes, quoiqu'ils en fassent à peine, car là-haut, les dormeuses de velours s'éveillent. Pour éviter leurs ailes chaudes, par l'un des portiques, je me jette décidément dans la cour centrale. Et ainsi, après avoir tourné longtemps autour du chaos embroussaillé des sanctuaires, j'y aborde enfin avec brusquerie d'un élan de fuite. C'est à un instant où la lumière baisse tout à coup, comme si le soleil subissait quelque grande éclipse. Au-dessus des amas de terrasses, de portiques et d'escaliers, qu'enchevêtrent des verdures fougueuses, les nuages viennent d'étendre soudain une voûte de ténèbres. Une pluie diluvienne va encore se déverser sur ces ruines. Et toutes les bêtes qui habitent là, sous les feuillets ou dans les trous de murailles, font silence, attentive à ce qui va tomber. Ce temple est un des lieux du monde où les hommes ont entassé le plus de pierres, accumulé le plus de sculptures, d'ornements, de rinceaux, de fleurs et de visages. Ce n'est pas simple comme les belles lignes de Thèbes ou de Baalbek. C'est déroutant de complications, aussi bien que d'énormités. Des monstres gardent tous les perrons, toutes les entrées. Les dizines apsaras, en groupes répétés indéfiniment, se montent partout entre les lianes retombantes. Et à première vue, rien ne se démêle. On ne perçoit que désordre et profusion dans cette colline de blocs ciselés, au fait de laquelle ont jailli les grandes tours. Mais dès que l'on observe un peu, une symétrie parfaite s'affirme au contraire, du haut en bas. La colline de sculpture forme une pyramide carrée à trois gradins, dont la base a plus d'un kilomètre de pourtour, et c'est sur le troisième de ces gradins, tout en haut, que se trouve sans doute le lieu saint par excellence. Il faut donc monter, oh, je m'y attendais, monter par des marches roides et déjetées, entre les apsaras souriantes, les lions accroupis, les serpents sacrés étalant comme un éventail leurs sept têtes, et les verdures languides qu'aucun souffle en ce moment ne remue, monter en hâte pour avoir le temps d'arriver avant que l'on décommence. En venant ici ce matin, j'avais prévu que cette ascension se ferait sous le soleil et le ciel bleu, avec des souffles d'air agitant les branches, avec partout des bruits d'oiseaux, d'insectes ou de reptiles en fuite devant mes pas. Mais ces mornes immobilités m'intimident. Je n'étais pas préparé à ce silence d'attente ni à ce ciel noir. Non, mon arrivée n'éveille aucun mouvement, aucun bruit, et même je ne perçois plus qu'à peine au lointain le chant de ces bonzes qui psalmodissent en trêve au pied du temple. Cependant, me voici sur la première des trois plateformes. Et là se dresse devant moi le second étage, d'une hauteur double de celle du premier, m'offrant des escaliers plus abrupts, plus gardés par des sourires ou des rictus de pierre. Il est entouré sur ses quatre faces d'une galerie voûtée, sorte de cloître immense et pompeusement superbe, avec cet excès de ciselure, ces portiques trop couronnés d'étranges frontons, avec ces fenêtres trop étroites dont les barreaux de grès, déjà trop massifs, se rapprochent comme pour mieux vous emprisonner. Délabrement extrême partout. À l'intérieur, décoration plus simple que dans les couloirs d'en bas. Il y fait humide, sombre, et on y sent une intolérable odeur de chauve-souris. Elles garnissent la voûte, ces dormeuses suspendues. À cette hauteur, on n'entend plus rien de la litanie des bonzes, et le silence est si profond que l'on ose à peine marcher. Seconde plateforme, entourée comme la première de son cloître aux façades aussi ouvragées que les plus patientes broderies. Là, on aurait le droit de se croire presque arrivé. Mais voici que le troisième étage surgit d'une hauteur double de celle du second, et le monumental escalier qui y mène, avec ses marches usées où l'herbe pousse, est roide à donner le vertige. Les dieux, sans doute, veulent se faire plus inaccessibles à mesure que l'on essaie de s'en rapprocher. Vraiment, on dirait que le temple grandit, s'allonge, s'étire vers le ciel, obscur. C'est un peu comme dans ces rêves fatigants où l'on s'acharne vers un but qui s'enfuit. Il doit y en avoir quatre de ces escaliers que les apsaras surveillent, un sur chacune des faces de l'énorme piédestal. Mais je n'ai pas le temps de choisir le meilleur, car l'ombre des nuages s'épaissit toujours et l'ondée est proche. Je monte en courant presque, et la forêt souveraine, semble monter en même temps que moi. Elle commence à déployer de toutes parts son cercle à l'horizon comme une mer. Troisième plateforme carrée, ayant de même son cloître de bordure aux façades ciselées, plus magnifiquement encore. En haut relief, sur les murailles, toujours les apsaras qui se tiennent par groupes, m'accueillant avec des sourires de moquerie discrète, les yeux à demi clos. À cet étage supérieur où j'atteins la base des grandes tours et des portes mêmes du sanctuaire, je dois être à plus de 30 mètres au-dessus des plaines. Maintenant, l'illusion se fait inverse. Il me semblerait plutôt que c'est le temple qui vient de s'affaisser dans la forêt. À le voir d'ici, on le dirait submergé, noyé au milieu de la verdure. Au-dessous de moi, trois assises graduées de cloîtres, des portiques à haute couronne, des voûtes somptueuses, à peine infléchies par les siècles, ont comme plongé dans les arbres, dans la muette étendue des arbres, dont les cimes, au loin et à perte de vue, simulent des ondulations de houle. La pluie, quelques premières gouttes étonnamment larges et pesantes pour avertir. Et puis tout de suite, le tambourinement général sur les feuilles des torrents d'eau qui s'abattent en fureur. Alors, par un portique dont le fronton surchargé imite des flammes et des cornes, j'entre en courant m'abriter enfin dans ce qui doit être le sanctuaire même. J'attendais une salle immense où je serais seul, et ce n'est encore qu'une galerie infiniment longue mais étroite, oppressante, sinistre, où je frémis presque de rencontrer dans le demi-jour de l'averse et des fenêtres trop grillées beaucoup de monde immobile, du monde mangé par les vers, des dieux cadavres, des dieux fantômes assis ou effondrés le long des parois. La plupart ont la taille humaine, mais quelques-uns sont géants, et d'autres sont nains. Il y en a d'un gris terreux, il y en a d'une rougeur sanguinolente, et çà et là, des dorures, comme au masque des momies, brillent encore sur certains visages. Beaucoup n'ont plus de mains, plus de bras, plus de tête, et un amas de fientes de chauve-souris enfle leur dos, déforment leurs épaules. Oh, dès qu'on lève les yeux, quel dégoût! Ici, plus encore qu'en bas, elles tapissent entièrement les plafonds de pierre. Ces petites pochettes en velours qui pendent accrochées par des griffes et que le moindre bruit déplierait toutes pour en faire un tourbillon d'ailes. Intérieurement, les épaisses parois noirâtres, dépourvues de tout dessin, disparaissent à moitié sous de fines draperies, comme des crêpes funéraires qui sont l'œuvre d'araignées innombrables. Au dehors, on entend l'averse qui fait rage. Tout est inondé, tout ruisselle en cascade. On respire de la vapeur chaude, à la fois fétide et musquée. Dans cette longue galerie, on se sent trop enfermé par le rapprochement des murailles, aussi bien que par l'énormité des fuseaux de grès masquant les ouvertures. Et cependant, le cercle de l'horizon, aperçu entre ces barreaux des fenêtres, maintient la notion de l'altitude. On n'oublie pas que l'on domine, du haut de cette sorte de prison aérienne, l'infini de la forêt mouillée. Le voilà donc, ce sanctuaire qui hantait jadis mon imagination d'enfant et où je ne suis monté qu'après tant de courses par le monde, quand c'est déjà le soir de ma vie errante. Il me fait lugubre accueil. Je ne m'étais pas représenté ces torrents de pluie, cet enfermement parmi les toiles d'araignées, ni ma solitude de cette heure au milieu de tant de dieux fantômes. Il y en a surtout un personnage là-bas, rougeâtre comme un cadavre écorché, dont les pieds s'émiettent de vermoulure, et qui, pour ne pas choir encore, s'appuie de travers contre la muraille, renversant à demi son visage aux lèvres rongées. C'est de lui, semble-t-il, qu'émane tout le silence et toute l'indicible tristesse du lieu. Prisonnier là tant que va durer l'orage. D'abord, je m'approche d'une fenêtre instinctivement pour chercher plus d'air, échapper à l'odeur des chauves-souris. Et entre les rigides barreaux fuselés, je regarde dévaler au-dessous de moi la masse architecturale que je viens de gravir. Au flanc des ruines, toutes les verdures fléchissent et tremblent, accablées par le tumultueux arrosage. Les légions d'Apsaras, les grands serpents sacrés et les monstres accroupis au seuil d'escalier semblent courber la tête sous le déluge quotidien qui, depuis des saisons sans nombre, les use à force de les laver. On entend de plus en plus l'eau crépiter fuir par mille ruisseaux. Pour discerner le plan d'ensemble de cette troisième et plus haute plateforme, il faudrait pouvoir sortir. Mais la lumière continue de baisser, comme si c'était le crépuscule au lieu du matin, L'horizon des forêts s'embrume tout à fait sous les rideaux plus opaques de la pluie. Donc, cela durera bien 1 heure. Force m'est de rester à l'abri, et dans cette persistante pénombre d'éclipsés, me sentant suivi par les sourires cadavéreux de toute cette assemblée de Bouddhas qui me regardent, je m'avance vers ce qui doit être le centre et le cœur même d'Angkor Wat. Je marche doucement sur les couches de poussière et de fientes semées de plumes de hibou. Les grosses araignées velues qui ont tissé les multiples draperies se tiennent immobiles et au guet. En plus de ce qui tombe sans cesse de la voûte, des petits tas de fleurs flétries et d'encens brûlés s'élèvent devant toutes les idoles, attestant qu'on les vénère toujours. Pourquoi cependant ne pas les épousseter un peu quand on vient leur faire visite? Et puis dans quel désordre on les a laissées? Les petites, les grandes, les colossales, pêle-mêle comme après une déroute. À l'époque indéterminée du sac de la ville et du pillage du temple, on a dû les renverser toutes et les traîner à terre. Plus tard, la piété des Siamois les a remises debout, autant que possible, mais en groupement quelconque le long des murailles, celles en grès dur ou celles en bois vermoulu, qui s'émiettent au moindre contact, celles qui n'ont plus de couleur ou celles qui ont encore des robes rouges et des visages dorés. Et de crainte d'en oublier une seule dans leurs hommages, les pèlerins qui viennent ici passent des heures, paraît-il, à parcourir les galeries sans fin où elles reposent. Statues bouddhiques, déjà plusieurs fois centenaires, elles furent cependant des nouvelles venues, des intruses toutes neuves dans ce temple d'un culte beaucoup plus ancien. Mais après avoir supplanté les images de Brahma, dieu primitif d'Angkor, les voici qui tombent à leur tour, détruites par le temps. Les dalles sont assez feutrées d'immondices et de cendres pour assourdir mon pas, et sans que les milliers de petites oreilles m'entendent là-haut, je puis m'acheminer vers le fond plus obscur de la galerie, entre les deux rangs de personnages muets. Ce fond, c'était jadis le Saint des Saints, le lieu où devait trôner le Brahma suprême, mais il a été muré en des temps que l'on ne sait plus. Et devant ce mur, qui sans doute enferme encore l'idole terrible et peut-être la conserve aussi intacte qu'une momie dans son sarcophage, un Bouddha très gigantesque, dominateur et doux, est venu depuis des siècles s'asseoir, croisant les jambes et fermant à demi ses yeux baissés. Depuis tant de siècles que les araignées l'ont patiemment drapé de mousseline noire pour éteindre ses dorures, et que les chauves-souris ont eu le temps d'amonceler sur lui leurs fientes en épais manteaux. La peuplade des horribles petites bêtes somnolentes forme à cette heure au-dessus de son front comme un dais capitonné de peluches brunes, et la pluie, qui s'obstine à ruisseler dehors, lui joue sa plaintive musique de chaque jour. Mais son visage penché, que je distingue malgré l'ombre, conserve ce même sourire qui se retrouve sur toutes les images de lui, depuis le Tibet jusqu'à la Chine, le sourire de la grande paix obtenu par le grand renoncement et la grande pitié. Le soir, quand je remonte au temple après avoir dormi en bas à ses pieds dans le hangar des pèlerins, pendant les heures trop brûlantes, le soir on n'imaginerait jamais qu'il a plu à torrents toute la matinée. Au ciel, c'est une splendeur bleue que l'on croirait immuable. La terre a eu vite fait de boire l'eau du abondante. Le soleil torride a séché les arbres de la forêt et les verdures qui s'accrochent aux ruines. Tout est lumineux, calme et chaud, bien plus encore que dans nos plus belles journées d'été. Les arbres s'arrasent, les monstres, les bas-reliefs à demi effacés, les amas de grandes pierres défuntes baignent à présent dans une sorte d'ironique et morne magnificence. Et les milliers de petits envahisseurs du sanctuaire, ceux qui volent, ceux qui courent ou ceux qui rampent, viennent de se remettre à butiner après s'être cachés pendant l'averse. On entend bruire partout des serpents, des lézards, chanter des tourterelles et des oiseaux, miauler des chats sauvages. De larges papillons se promènent, semblables à des découpures de soie précieuses, et des mouches par myriades, en corselets de velours ou d'or vert, mêlent à la psalmodie des bonzes leurs murmures comme un bourdonnement de cloches lointaines. Seuls les chauves-souris, les obsédantes chauves-souris, principales maîtresses d'Ankorva, dorment toujours à l'ombre perpétuelle, collées sous les voûtes des cloîtres. Avec le temps et l'abandon, chacune des assises superposées du temple est devenue une sorte de jardin suspendu, où les immenses feuilles des bananiers se mêlent aux touffes blanches d'un jasmin très odorant, fleuri en bouquet. Tout cela et mille autres plantes exotiques et de longues herbes folles, tout cela, après avoir fait semblant de mourir sous les coups de fouet de la pluie, s'est relevé plus vigoureux et d'une fraîcheur plus éclatante parmi la décrépitude des pierres. Sans me presser cette fois, puisqu'aucun nuage ne menace, je monte les degrés ardus qui conduisent d'en haut chez les dieux. Oh, les gracieuses et exquises ciselures jetées à profusion partout! Ces enroulements, ces feuillages, ces rinceaux, comment expliquer cela? Ils ressemblent à ceux qui apparurent chez nous à l'époque de François Ier et des Médicis. Pour un peu, l'on serait tenté de croire qu'il y avait impossibilité et que les artistes de notre Renaissance seraient venus chercher leur modèle sur ces murailles, qui, de leur jour cependant, dormaient déjà depuis 300 ou 400 centenaires au milieu de forêts tout à fait insoupçonnées de l'Europe. Je monte sans hâte, éclairé par un soleil d'éblouissement et de mort. Oh, combien de symboles effroyables échelonnés sur cette pénible route ascendante! Partout des monstres, des combats de monstres. Partout le naga sacré, traînant sur les rampes son long corps onduleux, et puis dressant en épouvantail ses 7 têtes vipérines. Les apsaras, qu'elles sont jolies et souriantes sous leur coiffure de déesse, avec pourtant toujours cette expression de sous-entendu et de mystère qui ne rassure pas. Très parées, ayant des bracelets, des colliers, des bandeaux de pierreries, de hautes tiares pointues ou des touffes de plumes, elles tiennent entre leurs doigts délicats tantôt une fleur de lotus, tantôt d'énigmatiques emblèmes, et toutes celles que l'on peut atteindre en passant ont été si souvent caressées au cours des siècles que leurs belles gorges nues luisent comme sous un vernis. Et ce sont les femmes qui, pendant les pèlerinages, les touchent passionnément pour obtenir d'elles la grâce de devenir mères. Dans leurs niches brodées de ciselure, elles demeurent adorables. Quel dommage que leurs pieds les déparent, toujours énormes comme au bas-relief de l'Égypte, et toujours inscrits de profil quand les jambes sont de face. Mais aussi, ils commandent la méditation recueillie, ces pieds si maladroits, en attestant que les belles déesses furent l'œuvre d'une humanité très primitive, dont l'art se débattait encore contre les difficultés du dessin, contre l'incompréhension du raccourci. ce qu'en outre ils ignoraient les fastueux architectes d'Angkor Wat. C'est la grande voûte développée. Les ancêtres ne leur avaient appris que celle qui se fait en encorbellement et qui par suite reste étroite et lourde. Aussi n'ont-ils pu construire que des galeries étouffantes, superposer des cloîtres, étager des gradins massifs, amonceler des blocs par-dessus des blocs. Et ce temple est sans doute, avec celui du Bayon enfondré dans la forêt proche, la plus pesante montagne de pierre que les hommes aient osé entreprendre depuis les pyramides de Memphis. Après chaque assise franchie, on a le répit d'un instant à l'ombre dans l'humidité chaude du cloître de bordure. Mais un soleil de feu darde sur le dernier escalier, deux fois plus haut que le précédent et le plus roide de tous, celui qui mène à la plateforme extrême et paraît grimper au ciel. En vérité, ce doublement progressif des hauteurs, d'un étage à l'autre, est une trouvaille architecturale pour agrandir le temple par une illusion à laquelle on n'échappe pas. Je l'éprouve ce soir, de même que je l'avais éprouvé ce matin sous les nuages sombres. C'est comme si la demeure des dieux, à mesure que l'on s'approche, vous fuyait en s'élevant dans les airs. Elle est voulue aussi et très habilement religieuse, cette décroissance successive de la décoration intérieure, plus on avance vers le Saint des Saints. J'avais déjà remarqué l'emploi de moyens pareils dans les temples brahmaniques de l'Inde, en particulier dans ceux d'Ellora, où après une débauche de sculptures le long des galeries basses, on finit par trouver le symbole suprême au fond d'une salle farouche, aux parois grossières et nues. Le lieu que le divin habite ne devant plus rien contenir qui puisse détourner les visiteurs de l'adoration et de l'effroi. Arrivé de nouveau jusqu'à la dernière des terrasses successives, je retrouve une galerie d'idoles fantômes, comme celle où je m'étais réfugié pendant l'averse, et conduisant dans l'ombre à une porte scellée de pierre, devant laquelle aussi un grand Bouddha, très doux, siège en veilleur. Mais ce n'est pas la même galerie que ce matin. Je ne reconnais pas les personnages aux figures mangées qui l'habitent, et du reste, j'y suis venu par des escaliers, des portiques différents. Le soleil de 5 heures en ce moment rayonne dans ces ors un peu rougis du soir. Plus aucune trace du déluge de la matinée. Je puis me rendre compte maintenant que sur cette plateforme du sommet, il y a 4 galeries identiques, aussi longues, aussi peuplées d'hôtes funèbres, tendues des mêmes toiles d'araignées noires et ouatées au plafond des mêmes chauves-souris dormantes. Toutes les 4 forment une croix à branches égales et viennent aboutir au Saint des Saints qui marque le centre du temple-montagne. Mais après une telle prodigalité d'ornementation dans les cloîtres d'en bas, ces plus hautes nefs, si brodées pourtant au dehors, ne présentent à l'intérieur que des piliers carrés à peine dégrossis, que des murailles rudes et frustes. C'est que l'on devait y entrer seulement pour la prière, après s'être dégagé l'esprit de tous les mirages de ce monde. Elles étaient les seuils de l'invisible et de l'inexprimable. Il n'y fallait donc plus rien pour appeler nos vanités, nos luxes terrestres. Et dans leurs profondeurs obscures, derrière les pareils bouddhas géants, leurs pareilles portes, aujourd'hui murées, ferment les 4 faces du réduit suprême, où peut-être l'âme du vieux temple subsiste encore, ensevelie avec les 4 brahmas terribles. L'une de ces tours colossales à profil de tiare, qui apparaissent de si loin dans la plaine, s'élève au bout de chaque branche de la croix formée par les quatre nefs, et au-dessus du Saint des Saints, où ces nefs se rejoignent, une cinquième tour encore, la plus étonnante et la plus compliquée, surpassant toutes les autres, domine d'une hauteur d'environ 70 mètres l'épais linceul vert de la forêt. D'après un lettré chinois qui visita ce mystérieux empire à la veille de son déclin vers le XIIIe siècle et qui nous a laissé les seuls documents connus sur sa splendeur, cette tour centrale était couronnée d'un lotus d'or si grand que de tous les points de la ville, aujourd'hui ensevelie, on voyait briller en l'air sa fleur sacrée. Dans la forêt qui m'entoure, et qui, sous le ciel pur de ce soir, se précise nettement jusqu'au cercle de l'horizon, je n'avais pas remarqué ce matin quelques arbres à feuillage annuel, çà et là, qui sont jaunis ou dépouillés parce que décembre commence. C'est qu'en effet, pour venir ici, j'ai marché vers le nord pendant 3 ou 4 jours. Ce pays donc n'est déjà plus absolument celui de l'immuable verdure, comme était la Cochinchine d'où j'arrive. Et malgré cette puissante chaleur tranquille, une impression inattendue d'automne, d'effeuillement comme dans les forêts de chez nous, vient augmenter pour moi tout à coup la mélancolie sans nom de ces ruines. Je croyais être bien seul aéré jusqu'à la nuit dans les galeries hautes. Mais, tandis que je suivais les yeux entre les massifs barreaux d'une fenêtre, le soleil qui, avant de s'éteindre, incendiait tout, des gens, derrière moi, arrivent à pas craintifs et veloutés, des vieillards portant barbiche blanche. Leur costume indique des pèlerins de la Birmanie. Devant chaque Bouddha, ils font un salut, déposent une fleur et allument une baguette d'encens. Même aux plus informes débris tombés sur les dalles, ils adressent en passant une révérence, et chaque fois que le lambeau est encore un peu reconnaissable, un bras, un torse vermoulu, une tête sans corps, ils s'arrêtent pour planter auprès, entre les joints du pavage, une de leurs baguettes allumées. Une fois de plus, donc, l'air fade et moisi dans lequel ces figures ou ces vestiges achèvent de retourner à la poussière s'emplit pour un moment d'une suave odeur. L'un des pèlerins, cependant le chef de la bande, dit quelque chose qui doit signifier « Hâtons-nous, la nuit approche et nous prendrait dans les ruines. » Alors ils brusquent leur dévotion, esquivent des révérences plus courtes. Arrivés devant un grand Bouddha qui, au fond de la galerie, défend le sanctuaire muré, ils choisissent les places où la dorure de ses jambes est le plus éteinte, et avec soin, ils y appliquent des feuilles d'or qu'ils tirent d'un portefeuille. Après quoi, ils s'en vont. J'entends se perdre le bruit de leurs pas discrets qui redescendent les roides escaliers de pierre. Leur départ a rendu tout à coup la solitude plus imposante et semble faire baisser plus vite le jour. D'ailleurs, la plongée du soleil est si verticale et si rapide en ces régions presque sans crépuscule. Déjà l'ombre envahit au-dessous de moi la masse architecturale que je regarde comme un vol d'oiseau et aussi toute l'étendue de la forêt enveloppante où bientôt vont s'ouvrir innombrables les yeux des bêtes nocturnes. Seules 2 tours qui se dressent là dans mon voisinage resplendissent encore comme des braises vives, les rayons rouges éclairent en apothéose leur architecture inconnue, qui n'est ni hindoue ni chinoise, qui ne ressemble à celle d'aucun autre pays de la terre. Si les ornements des murailles, les rinceaux et les feuillages rappelle notre Renaissance européenne, ces tours, au contraire, sont d'une étrangeté frappante. Conception d'une race à part, qui a jeté un vif éclat dans ce coin du monde et puis qui a disparu sans retour. On dirait un peu des gerbes de tuyaux d'orgue, au-dessus desquels on aurait posé par rang de taille des couronnes à fleurons. Ils s'y mêlent aussi des apsaras, des dieux très bizarrement nimbés, des groupes de monstres. Et dans le ciel, qui déjà change et tourne aux grisailles crépusculaires, tout cela reste éclatant pour quelques secondes encore. C'est du métal rougi au feu, ce sont les tours brûlantes dont ne sait quel palais magique. Jadis, à la place de cette mer de verdure, silencieuse à mes pieds, la ville d'Angkor Thom, encore la grande, s'étendait au loin dans la plaine. Il suffirait d'élaguer les branches touffues pour voir encore là-dessous reparaître des murailles, des terrasses, des temples, et se développer les longues avenues d'allées que bordaient tant de divinités, de serpents à sept têtes, de clochetons, de balustres, effondrés aujourd'hui dans la brousse. La forêt profonde, la voilà redevenue ce qu'elle avait été depuis le commencement des âges, pendant des siècles incalculables. On n'y reconnaît plus l'œuvre de ces aventuriers hindous qui, environ 300 ans auvent en notre ère, étaient venus y jeter la cognée, y déblayer l'espace d'une ville de près d'un million d'âmes. Non, cela n'a duré qu'un millénaire et demi, cet épisode de l'Empire des Khmers. Autant dire une bien négligeable période en comparaison des longévités du règne végétal. Et c'est fini. La cicatrice s'est refermée. Il n'y paraît rien. Le figuier des ruines étale partout ses dômes de feuilles vertes. De nos jours, il est vrai, d'autres aventuriers, venus d'un pays plus à l'Occident, le pays de France, troublent quelque peu la forêt éternelle, car ils ont fondé non loin d'ici un semblant de petit empire. Mais ce nouvel épisode manquera de grandeur et surtout manquera de durée. Bientôt, lorsque ces pâles conquérants auront laissé encore dans la terre indo-chinoise beaucoup des leurs, hélas, beaucoup de pauvres jeunes soldats irresponsables de l'absurde équipé, ils devront plier bagages et fuir. Alors on ne verra plus guère dans cette région errer, comme je le fais, ces hommes de race blanche qui convoitent si follement de régir l'immémoriale Asie et d'y déranger toute chose. Les deux fantastiques donjons, quasi incandescents que je regardais de cette fenêtre, se refroidissent singulièrement vite. Se refroidissent par leur base, sans doute, parce qu'elles plongent dans le temple, lequel plonge dans l'humide fouillis des arbres. Il n'y reste plus de feu rouge qu'à la pointe extrême du feu qui tout de suite passe au violet et achève de s'éteindre. La lumière de l'immense décor se meurt comme celle d'une lampe sur laquelle on a soufflé, et la forêt est déjà pleine d'ombre sous un ciel cendré où des phosphorescences jaunes et vertes indiquent seul le côté du couchant. Les Bouddhas autour de moi commencent à m'inquiéter. Je crois qu'ils s'amusent à enfler davantage les épaules sous ces couches de fientes brunes qui les déforment comme de trop grosses pèlerines en fourrure. Les ruines s'enveloppent d'une majesté soudaine, tellement que je me sens profanateur d'être encore là. Et puis une épouvante inconnue sort des recoins les plus assombris, où ces géants au dos voûté, ces nains bossus, prennent tout à fait l'air de fantômes. Elle sort lentement, la sournoise épouvante. Dans la galerie, elle se traîne comme une onde paresseuse vers la fenêtre où j'étais. Mais je devine qu'elle va remplir le temple et que je n'y échapperai pas. Du reste, il faut s'en aller. Descendre pour ne pas être surpris par l'obscurité au milieu des escaliers aux marches glissantes entravées de lianes. Et au-dessus de ma tête, voici des petits cris de rats qui se répondent le long des plafonds de grès sonore. C'est l'heure où toutes les membranes chauves vont se déplier pour danser la ronde en vertige autour du vieux sanctuaire, reprendre le tourbillonnement général de chaque soir, la grande chasse, le grand massacre des moucherons et des phalènes.